plus qu'un groupe, c'est une tribu. Exigeant, ils ont créé leur propre label, Bandage, pour ne dépendre ni des maisons de disques, ni des hit-parades.
Comment veux-tu faire quelque chose qui soit sincère quand t'as un directeur de chaîne ou t'as un directeur de boîte de disques, tu vois, qui te dit petit père, ton truc c'est bien, mais en ce moment, tu vois, la mode c'est un peu le rap, alors fais-moi un truc un peu plus hard. Ben, tu vois ? Non.
Vous venez d'entendre une archive de 1988 où un membre du groupe rock punk Les Berruriers Noirs défend la création de leur label indépendant. Justement, c'est le sujet qui nous intéresse maintenant. Marie nous parle de l'opération Indies First qui se tient tout au long du mois d'octobre.
Indies First, c'est une campagne de sensibilisation au rôle des labels indépendants lancée par la FELIN, la Fédération Nationale des Labels et Distributeurs Indépendants. Une fédération qui existe depuis un peu plus de 15 ans maintenant, montée par Philippe Couder du label de rock Vicious Circle à Bordeaux. Son objectif, c'est de réunir le plus possible de labels indépendants, des distributeurs aussi, dans le but de défendre leurs intérêts auprès des autorités gouvernementales et des organismes qui les subventionnent. J'ai échangé avec Mathieu Dacieux, fondateur du groupe Danakil et président de la FELIN.
L'objectif, c'est de faire du lobbying pour expliquer quelle est la réalité d'un label indépendant aujourd'hui et de montrer que voilà, on n'a pas les mêmes facilités que les grosses structures de l'industrie et que c'est important qu'on soit protégé, qu'on soit défendu parce que ce sont les labels indépendants qui sont les garants numéro un de la diversité culturelle, de l'ancrage territorial parce qu'on est... C'est nous qui sommes au contact des groupes locaux dans toutes les villes de France. Et si on veut préserver ce maillage territorial et cette diversité, bah, il faut qu'il y ait des gens comme nous, comme à la FELIN, qui puissent être voilà, sur le champ de bataille toute l'année pour défendre les intérêts des labels indépendants.
À Rennes, je suis allée à la rencontre de Romain Pierre, qui gère le label Foudrage.
Foudrage, c'est un label que j'ai créé fin 2019. Et c'est un label que j'ai voulu centrer davantage sur le texte et sur le propos, par opposition à mon label historique qui s'appelle Vlad, qui était un label plutôt dancefloor et festif. Donc Foudrage, c'est un label qui va défendre du texte en français. Donc au départ, c'est plutôt hip-hop, mais pas que. Et comme on s'attache plutôt au fond qu'à la forme, on le dit sans embâge. Ça veut dire que même si la musique, qu'elle soit chouette ou moins chouette, c'est pas tellement grave, c'est vraiment un label qui est sur le texte en fait. Dès qu'on travaille le texte, on a plus d'artistes hip-hop dans le viseur. Et on a vite identifié qu'en fait, dans le rap, en tout cas dans ce qu'on recevait, c'était toujours un peu les mêmes thèmes du hip-hop francophone qu'on entend à la radio et qu'on entend partout en fait, à savoir des thèmes pas passionnants. De type ego trip et autres défense de la responsabilisation individuelle des individus et autres oppressions en tout genre. Donc on a voulu défendre des textes qui justement prenaient le contre-pied de ces thèmes-là. Donc et le simple fait de poser déjà des barrières en termes d'oppression et de glorification de l'individu, ça faisait un tri assez drastique dans des mots qu'on recevait.
Pour revenir à l'opération Indies First, elle a donc été lancée au mois d'octobre pour parler de l'importance et du rôle des labels indépendants. Et pour Mathieu, les changements de l'industrie de la musique des dernières années ont favorisé les majors au détriment des indépendants.
Aujourd'hui, on est dans un monde très concurrentiel au niveau de la musique, avec des modèles économiques qui ont été profondément bouleversés avec l'arrivée du digital à la fin des années 90, au début des années 2000. Il y a eu toute une période de piratage intense où les revenus des labels se sont effondrés. Quand les revenus des labels s'effondrent, les revenus des artistes s'effondrent aussi. Donc il a fallu à peu près 10 ans pour qu'un nouveau modèle émerge et commence à se stabiliser, ce qui est le cas aujourd'hui avec donc l'arrivée du streaming. Et tous ces bouleversements ont fait que nos structures ont dû se bouleverser elles aussi, ont dû muter, ont dû évoluer. La nature même du label indépendant, qui est souvent un label qui est géré par une personne ou deux, ou alors c'est vraiment des très petites équipes, font que c'est un écart s'est creusé entre les énormes boîtes, les majors compagnies et les gros indépendants qui, eux, ont eu plus de facilité car plus de moyens pour faire cette mue digitale et les plus petits labels indépendants. Donc, c'est important aujourd'hui pour nous de montrer comment on fonctionne et quelle est la nature de nos catalogues, qui sont nos artistes, et d'expliquer au grand public que comme on est capable aujourd'hui d'expliquer que c'est important de consommer local, d'éviter les intermédiaires, de faire vivre les petits petits producteurs dans le monde de l'agro, on va dire, ou de la consommation de biens, on va dire, de fruits et légumes, de plein de choses. On a à peu près la même problématique au niveau des biens culturels et notamment des disques, des phonogrammes, ce qu'on défend nous aujourd'hui. Et on est exactement dans la même philosophie, dans la même réflexion, de dire c'est important de savoir ce que vous consommez et que quand vous écoutez de la musique, qui est derrière cette musique-là.
Je pense que la vraie différence, elle se passe en termes de modèle économique, dans le sens où dès que tu es dans un circuit indépendant, tu ne bénéficies pas du coup des effets d'échelle des majors. Donc tu ne peux pas compter sur le simple fait de produire un disque et de le mettre dans des canaux de promotion pour le vendre. Il faut trouver des niches, des gens qui s'intéressent à une musique de manière active. Tu n'as pas accès au grand public en fait. Donc tu ne peux pas juste mettre sur internet de la musique, les mettre dans les playlists que des millions de gens écoutent par défaut et t'attendre à ce que ça génère des revenus. Donc je pense que c'est plus, les partenaires peuvent être les mêmes parfois, c'est plus que dès le départ tu es sur une musique, en fait c'est une opposition entre artisanat et industrie. Enfin, moi, je vois comme ça depuis le début quasiment. Donc, quand tu es sur un système industriel, j'imagine, parce que moi, je fais pas ça, mais j'imagine que tu as des tuyaux, en fait. Donc, tu as des tuyaux qui alimentent des millions d'oreilles dans ce pays. Tu mets à peu près n'importe quoi dedans qui ressemble à ce qu'ils ont déjà écouté avant. A priori, ça marche. Des fois, tu te rates, mais après, tu vas te refaire en refaisant un truc qui est bien conforme à ce qu'ils aimaient avant. Et comme ça, tout ira bien. Quand t'as pas les tuyaux, du coup tu cherches des gens tout le temps. Tu cherches des publics, tu vas chercher des gens qui écoutent de la musique de manière passive. Tu vas essayer de leur expliquer qu'en fait, s'ils s'y intéressent deux secondes, il y a peut-être des choses cool à écouter, mais il faut aller les chercher. Tu vas devoir contourner les systèmes de PH que sont les playlists, les SMAC, tous ces organismes-là qui sont industriels pour le coup. Donc je pense que ça t'oblige en fait à aller chercher les gens. Donc tu fais un travail qui va plus être, je pense, qualitatif que quantitatif.
En indé, la visibilité, elle est donc plus compliquée à avoir. C'est pourquoi Indies First, c'est pour Mathieu un événement important de mise en avant des labels et des artistes.
On a de grosses difficultés à mettre en avant nos catalogues sur les médias, on va dire, traditionnels, télé, radio, nationale. De tout temps, on a toujours eu des parts de marché très très faibles. Ce sont des canaux de visibilité auxquels on n'a quasiment pas accès. Donc c'est vrai que les labels indépendants, ce qui leur permet d'être visibles et de mettre en avant les groupes qu'ils développent, c'est avant tout la scène, le live. Là on sort de 2-3 années très compliquées avec le Covid, le live a été à l'arrêt. Aujourd'hui on est dans un embouteillage assez incroyable avec une énorme pression parce qu'il y a tout le monde qui est revenu sur la route en même temps. Donc encore une fois, les petits projets, les projets des artistes en développement et essentiellement donc des labels indépendants galèrent à trouver des places sur la route, dans les festivals, dans les salles qui ont énormément d'offres et forcément pas assez de place pour tout le monde. Donc on est toujours un peu les derniers servis. Donc c'est important pour nous et c'est pour ça qu'Indies First s'est montré à ce moment-là. C'est l'occasion de lever la main et de dire « Coucou, on est là, on existe ». Voici nos catalogues et là sur cette opération-là, qui est une opération qui donc se déroule pendant tout le mois d'octobre, voilà les sorties, les principales, les sorties qu'on avait envie de mettre en avant dans cette sélection Indies First et qui montrent toute la diversité des labels indépendants. On va trouver du jazz, on va trouver du rock, on va trouver du reggae, on va trouver de la musique classique, on va trouver de la chanson. Donc on est capable de balayer l'ensemble du spectre esthétique, on va dire, des labels indépendants, et on montre quelle est la richesse de nos catalogues, avec des petits projets que les gens vont découvrir, mais aussi avec des groupes qui sont capables de remplir des zéniths, en fait. Donc c'est aussi pour casser cette image de « on fait de la musique de niche qui intéresse que quelques mélomanes bien particuliers ». Non, c'est pas vrai. Les labels indépendants, ils sont aussi capables de faire de la musique populaire, de faire de la musique mainstream, de formater des titres qui seraient susceptibles d'arriver sur des radios nationales. C'est l'occasion de montrer quelles sont nos capacités en tant que producteurs.
Comme Mathieu le soulignait, la crise du Covid, elle a eu un impact réel sur les labels indépendants. Et c'est ce que nous explique Romain.
Alors nous, il se trouve qu'on fait aussi du spectacle. C'est même ce qu'on faisait le plus avant d'avoir le modèle économique basé sur le phono, sur les labels. Donc forcément, avec la pandémie, on a eu pas mal de... Enfin, on a eu juste 100% d'annulation sur notre tournée 2020, au départ. Puis du report sur 2021 qui ne s'est pas forcément bien mis en place, donc, et de nouvelles annulations. Donc on a perdu beaucoup d'activités sur le spectacle. Et c'est là qu'on a eu cette super idée de se tourner à fond vers le vinyle. Et là, on s'est pris un deuxième espèce d'effet qui se coule, puisque nous avons eu à pâtir de la baisse des subventions déjà dans le cadre du procès qui oppose, que je me trompe pas, c'est un litige entre les sociétés civiles françaises et la Cour européenne de justice. Donc il y a une baisse des subventions déjà à ce niveau-là, plus les nombreuses pénuries dans le secteur vinyle qui font qu'on a eu des retards pas possibles, de type un an sur des productions vinyles. Donc nous, on a vraiment rebondi en se disant on va se mettre à fond sur le disque, puisque c'est la pandémie, les gens sont chez eux, ils écoutent des disques. Et on a eu à affronter ces retards-là qui sont en train de se régler, quoi. Donc c'était un petit peu en deux temps. On a été aidé pas mal pendant la crise par des dispositifs du gouvernement qu'on allait solliciter à fond. On a tout réinvesti pour pouvoir rebondir. Là, deux ans plus tard, ça s'est un peu stabilisé. Les concerts reprennent. Je crois qu'on est sur un moins 30%. Je crois qu'on est sur un moins 30% dans les billetteries, dans les événements en général, au niveau français, me semble-t-il, sur le spectacle. C'est un 30% de moyenne qui cache des grosses disparités entre les têtes d'affiche et les petits groupes. Et ensuite, nous, on a aussi 30% de moins sur nos ventes de spectacles. C'est-à-dire que nous, on a vendu 30% de moins de concerts qu'en 2019, par exemple.
Des baisses de ventes qui viennent accentuer certaines difficultés déjà présentes à cause du modèle de fonctionnement et de rémunération du streaming, un modèle qui pourrait pourtant changer.
C'est un petit peu technique, mais il faut savoir aujourd'hui que quand on stream nos catalogues, on ne gagne pas l'argent du streaming. L'argent du streaming, il repart dans une grosse bourse globale, générale, qui est partagée en fonction du poids des labels. C'est-à-dire que les gros vont gagner plus que les petits. Et c'est complètement déconnecté et décorrélé du fait que les gens streament ou pas nos catalogues. Par exemple, moi, dans mon label, j'ai un groupe qui s'appelle Danakil, qui est le groupe qui a fondé le label, qui est un groupe qui remplit des salles dans toute la France. Quelqu'un, un fan de Danakil qui va écouter Danakil toute la journée, qui va payer son abonnement 10 euros, son abonnement 10 heures par exemple, cet argent-là ne va pas du tout aller va pas du tout être fléché vers le label et donc vers les ayants droit, vers les Danakil. L'argent, il va repartir dans une bourse commune et puis en fait, la grande majorité de cette somme va être partagée entre les trois majeures compagnies parce qu'elles ont une part de marché qui est supérieure à la nôtre. Donc nous, on dénonce ce système-là aujourd'hui parce qu'encore une fois, on est les derniers de cordée, on va dire. On ramasse les miettes et c'est complètement décorrélé de la réalité commerciale de nos groupes. Et ça, c'est un vrai scandale. Il y a eu une étude qui est sortie il y a quelques mois maintenant en Allemagne, où ils ont étudié sur un an sur le marché allemand. Ils ont vu qu'il y avait 170 millions d'euros qui étaient détournés des labels indépendants pour aller vers les principaux labels majors, etc., avec ce système de répartition de la valeur ajoutée. 170 millions, c'est colossal. Et si on fait ça sur l'ensemble des pays, sur l'ensemble des plateformes, parce que là, c'était que Spotify, c'est des centaines et des centaines de millions qui vont pas vers les acteurs indépendants et qui sont récupérés par les principales maisons de disques. Donc c'est un autre exemple de biais concurrentiel qui fait que nos entreprises jouent pas au même jeu que les grosses et sont clairement dans des situations complètement désavantageuses, pour pas dire, là, quand on parle de la rémunération du streaming, c'est carrément catastrophique, quoi, en termes d'impact financier et puis même philosophique, moral. On est dans une usurpation de nos revenus, quoi. On se fait prendre notre part de marché et on est à deux doigts de l'escroquerie, quoi.
En gros, depuis le début, le streaming rémunère les artistes. Donc d'abord rémunère les producteurs qui ensuite rémunèrent les artistes. Donc quand ils sont autoproduits, c'est la même personne, mais parfois il y a un label qui prend une grosse part pour rembourser ses investissements et ensuite l'artiste au bout de la chaîne. En prenant tous les revenus sur un mois générés par le streaming, par les comptes payants et publicités, et en divisant ce montant énorme, qui doit être en millions ou en milliards, par le nombre de streams émis sur ce mois, qui est aussi en millions ou en milliards. Et ça, ça donne actuellement, pour Spotify France, ça donne 0,0033 centimes. Ça, c'est le mois de, je crois, juillet 2022. Donc ça paraît peu, et en fait, ça l'est, parce que quand tu multiplies ça par 1000 streams, ça fait 3 euros. Ça, c'est le modèle actuel, ce qui fait qu'en gros, ça tend mécaniquement à avantager les gens qui font beaucoup de streams. L'autre façon de faire qui pourrait exister, c'est de rémunérer, non pas en divisant le global par le nombre de streams, mais en prenant pour une personne qui paye 10 balles son abonnement, se demander, tiens, cette personne, qu'est-ce qu'elle écoute en fait ? Si elle écoute que du métal suédois, ce serait quand même cool que ces 10 euros à elle n'aillent que sur les groupes de métal suédois qu'elle écoute, à savoir un seul groupe, en l'occurrence, non, il y en a plusieurs. Mais ça, c'est l'autre modèle qui s'appelle le modèle per user, par opposition au modèle per stream, qui dit on va prendre chaque utilisateur et on va plutôt ventiler le montant que cette personne met dans son abonnement streaming vers les artistes qu'elle elle écoute. Et on se rend compte que ça fait des différences de traitement dans les revenus, qui ne sont pas si d'ailleurs ébouriffantes que ça. Je crois que le CNM a fait une étude là-dessus, ce n'est pas des différences fondamentales, quoi. Mais ça, c'est les deux modèles qui existent et qui sont, même s'ils sont dans les chiffres, ça ne fait pas des méga différences. Ça fait quand même, je crois qu'il y avait une étude qui sortait qu'en gros, tel groupe, au lieu de gagner 50 euros, gagnerait 100 euros. Donc là, les commentaires, c'était, bah oui, mais bon, avec 50 euros de plus, je ne vais rien pouvoir faire. Certes, c'est quand même x2.
S'il n'y a pas d'intervention de l'État à ce niveau-là avec une loi qui s'impose et qui vient réguler le marché, on restera dans la loi de la jungle, la loi du plus fort. Et voilà, les plateformes de streaming aujourd'hui ont des liens capitalistiques avec les majeures compagnies. Elles n'ont aucun intérêt à changer leur système de rémunération qui irait avec des centaines de millions d'euros qui échapperaient alors à leurs actionnaires pour aller dans les caisses de petits labels indépendants. Donc ça ne se fera pas par en claquant des doigts en se disant « Ah ouais, c'est vrai qu'on vous vole vos revenus. Si l'État n'intervient pas, il n'y aura pas de régulation et on continuera à se faire spolier nos revenus. »
Alors le gros de l'opération Indies First est derrière, puisque de nombreuses tables rondes ont eu lieu pendant le MAMA Festival à Paris par exemple. Il reste essentiellement des rencontres avec des patrons de labels chez certains disquaires où on pourra échanger autour des problématiques existentielles des labels indépendants d'aujourd'hui. Et ça rassemblera évidemment plusieurs acteurs de l'industrie musicale. Alors pour clore ce reportage, je vous propose un peu de musique évidemment. On va écouter un artiste du label Foudrage, il s'appelle Klaus Tinto. Son dernier album « La vie c'est comme ça » est sorti le 7 octobre dernier avec une chanson éponyme entre hip-hop et électro. Pour citer Romain, c'est à la fois un appel à l'émeute et un appel au câlin. Alors on vous laisse l'écouter tout de suite sur Syllab. Et je vous précise que vous pourrez retrouver Klaus Tinto en concert au 4 bis le 7 décembre.
La vie c'est comme ça, le cours d'eau très froid nous dépasse déjà. La vie ça va vite, le cadran s'effrite, vie déjà écrite. La vie c'est tout mou, est-ce que tu pleures nous? Vois déjà le trou. La vie c'est la guerre, demain c'est IR, SOUPIR.
C'est ça la vie, c'est ça qu'on dit quand on n'a pas d'idée. C'est ça la vie, c'est ça qu'on dit quand on veut pas pleurer. C'est ça la vie, c'est tout petit, tout est normal, la solitude c'est pas si mal. C'est ça la vie, c'est ça qu'on dit, laisse-les se noyer. C'est ça la vie, c'est ça qu'on dit, laisse tout s'écrouler. C'est ça la vie, c'est pas joli, tout est normal, la servitude c'est pas si mal. C'est ça la vie, si tout se vaut, c'est pas la vraie, tout est faux, tout est sali. C'est ça la vie, la mienne ici, c'est pas la pire, y'a la mère et les amis. C'est ça la vie, c'est ça qu'on dit, celle des autres est pourrie, c'est pas grave, je bouge pas, lève les bras, baisse les bras. C'est ça la vie, c'est là qu'on dit, bâillonner, menotter. C'est ça la vie, ça fait joli, décorer, maquiller. C'est ça la vie, fais pas de bruit, t'en fais pas, tout va bien, tu verras, les gens t'y gagnent à la fin. C'est ça la vie, ça va, ça se porte à bout de bras. Supporter les repas, surtout quand y'en a
La vie c'est comme ça. C'est la dernière fois qu'on se laisse dire ça. Le cours d'eau très froid, les veines et les doigts, le silence déjà. La vie c'est tout nous, on veut se taire ou enfoncer le clou. La vie c'est la guerre, demain le désert. S-O-U-P-I